Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série des Jeans Podcast. Sous le prisme de l'intersectionnalité, j'aimerais parler de l'archétype de l'homme arabe, qui plus est l'homme arabe gay, au cinéma. Que ce soit Sami Houtalbali dans la série Sex Education sur Netflix, ou Les Grands sur OCS, ou alors Omar Ayuso dans Elite sur Netflix, les personnages d'hommes arabes gays ne manquent plus si cruellement à l'écran. Mais comment sont-ils dépeints ? Comment s'affranchissent-ils des stéréotypes liés à la violence ou à la fétichisation ? La fabrique du racisme sexuel est telle qu'il a fallu désérotiser les hommes arabes à l'écran pour montrer qu'ils peuvent avoir une sexualité acceptable, dite civilisée. Et j'ai aussi analysé comment le cinéma français a construit les représentations des corps arabes depuis les Frères Lumière jusqu'à aujourd'hui, en passant par un regard colonial qui a dépeint les masculinités arabes comme violentes et les féminités arabes comme soumises. Le point de vue d'homme blanc a objectivé et exotisé les corps arabes, d'hommes comme de femmes. Il persiste un orientalisme donc qui relie le patriarcat aux terres d'islam, là où les femmes n'auraient aucun droit, et où les garçons arabes pourraient coucher pour quelques pièces. Déjà au début du XXe siècle domine la figure de l'éphèbe efféminé. Au tournant de la guerre d'Algérie, l'imaginaire français se focalise sur l'homme algérien, arabe en général, les catégories sont floues à ce moment-là, associé cette fois à la violence et à l'agressivité. Ensuite, si je puis dire, le garçon arabe va devenir un homme arabe. Dans l'univers contemporain, sa déclinaison va être le jeune de banlieue, excitant mais aussi potentiellement dangereux, car jugé sexiste, homophobe, violent et agressif. Il y a donc une fascination et une répulsion pour la virilité arabe. Mais alors, comment on performe le genre à l'écran ? Qui sont ces acteurs qui incarnent des personnages d'hommes arabes homosexuels ? Aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir Janis Bouziani, Mehdi Meskar, Jonas Ben Ahmed et Salim Keshouch. Alors rapidement, Janis Bouziani est un jeune acteur français d'origine algérienne. Il a notamment crevé l'écran dans le film d'Afsia Herzi, Tu mérites un amour, mais il a joué aussi dans Sœur de Yamina Benguigui ou La fracture de Catherine Corsini. Mehdi Meskar est un jeune acteur italo-marocain qui a obtenu son premier rôle au cinéma dans le film Dans la maison de François Ozon. Mais il a surtout été le personnage principal de la série Les Engagés, qui suit le parcours d'Hicham, jeune homme gay, musulman, marocain, en déperdition. Salim Keshouch est un acteur français d'origine algérienne à la filmographie impressionnante. Il est aussi réalisateur, homme de théâtre, homme de stand-up et grosse voix à la radio. Repéré par Gaël Morel puis François Ozon, Salim enchaîne les rôles jusqu'à l'apogée avec Abdelatif Kechiche, où il prend tous les rôles des plus stéréotypés aux plus inédits, dont des rôles d'hommes homosexuels, pour les incarner avec justesse et intensité. Enfin, Jonas Ben Ahmed est un jeune acteur français d'origine maghrébine, premier acteur trans à apparaître dans une série télé à succès, Plus belle la vie. Merci à tous d'avoir accepté mon invitation dans Jeans.
Bah, avec plaisir, pas de soucis.
Merci à toi.
Merci à toi, Jamel, de l'invitation, ça fait plaisir.
Alors commençons par toi, Mehdi. Tu as joué dans la série à succès Les Engagés sur France Télé, qui parle d'un jeune homme d'origine marocaine, musulman, qui retourne à Lyon pour trouver refuge chez son ami de longue date Thibaut et qui va trouver grâce à lui la force de faire son coming out. Thibaut, lui, il est militant dans un centre LGBT et tout le long de la série, il y a une déconstruction plutôt claire et à droite de la représentation de l'homme arabe homosexuel. Il y a même Najet, la sœur voilée d'Hicham, qui a très vite compris et accepté l'homosexualité de son frère. Pourquoi c'était important pour toi d'incarner ce rôle ?
Bah, si tu veux, c'est marrant parce que tu sais, quand t'es jeune comédien, en fait, tu fais des castings, tu passes beaucoup de castings. Et puis, pour moi, Les Engagés, c'était au final, à ce moment-là, un casting comme un autre. Tu vois, j'arrive Et en fait, quand je suis arrivé, tu vois, je me posais pas toutes ces questions. J'avais lu, j'avais trouvé le rôle intéressant, la série intéressante, mais bizarrement, j'avais pas commencé à me poser toutes ces questions sur la représentation, sur ce que ça voulait dire. Et en fait, il se trouve que oui, quand j'ai eu le rôle, après 2-3 castings, cette question a commencé à se poser parce que des gens autour de moi ont commencé à me dire « Ah oui, alors, ça te fait quoi de jouer un jeune homosexuel dans une série, etc. » Et en fait, c'est marrant parce que moi, c'était pas une question que je me suis posée. Cette série aussi, et c'est ça qui est beau aussi dans le parcours de vie, je pense que l'on a, c'est que cette série-ci m'a permis de me poser par la suite des questions que je me posais pas avant. Pour moi, ça a jamais été un sujet. C'est-à-dire que moi, j'interprétais un rôle, un personnage, et j'ai abordé Hicham comme n'importe quel autre rôle que j'avais pu interpréter avant. Maintenant, c'est vrai aussi que quand t'intègres un tel projet, ce qui est bien, c'est que les gens dans le projet se posent ces questions-là et te permettent en fait d'une certaine façon aussi de grandir et d'aller être plus précis dans ton regard vis-à-vis d'Hicham, son homosexualité, ses origines.
Oui, c'est intéressant parce qu'il y a aussi les arcs narratifs sur les jeunes migrants LGBT+, sur les dragues, sur les gays plus âgés, sur les politiciens gays placardés, sur les femmes lesbiennes arabes, sur la relation entamée avec un homme trans incarné par Adrian de la Vega. Donc le personnage d'Hicham va de découverte en découverte, de révolte en révolte. Il y a la question du trouble. Est-ce que c'était la même chose pour toi en tant qu'acteur, Mehdi?
La première saison, j'étais juste en train d'interpréter un rôle. Et c'est aussi les réactions des gens. On a fait l'avant-première au festival LGBT Chéri Chéri à Paris. Lors de l'avant-première, il y a eu pas mal de jeunes maghrébins qui sont venus me voir, qui m'ont dit « Ah ouais, ça a été vachement courageux que tu interprètes ça. Moi, j'aurais pas eu le courage par rapport à ma famille, etc. » Et c'est là aussi où j'ai commencé à réaliser « Ok, en fait, ce rôle... est en train déjà d'avoir un impact sur les gens. Et puis évidemment, c'est aussi les retours après que tu as sur les réseaux, Instagram, par message, que ça m'a fait réaliser en fait. Autant j'ai toujours été très sensible à toutes les questions queer, de représentation. Enfin quand même, j'avais déjà cette conscience-là, parce que moi-même, j'ai pu commencer à faire du cinéma, pour petite parenthèse. J'ai grandi en Italie, je suis né en Italie jusqu'à mes 14 ans. C'est un pays qui est très raciste, qui a rejeté beaucoup, qui rejette encore aujourd'hui beaucoup la diversité. Et en fait, je me rappelle quand j'étais enfant, j'avais 12 ans, on était venu en vacances avec mes parents en France, il y avait des affiches de Neuilly sa mère, tu vois, le film avec Sami Seghir. Et en fait, moi, je me rappelle, j'étais enfant et je regardais cette affiche dans les rues. Je me disais, waouh, il y a un garçon, il a mon âge, et il est le rôle principal, tu vois, d'un film. Et c'est ça aussi qui a fait que je me suis dit, attends, mais je vais revenir en Italie, et j'ai envie d'être comédien, même si à l'époque, c'était impossible de l'être là-bas. Et puis, on a déménagé ici, et c'est là où j'ai commencé à jouer. Parce que moi-même, c'est le fait de voir la diversité au cinéma qui a fait que je me sente légitime de pouvoir moi-même être comédien. Toutes les questions sur la transidentité, le fait d'en faire... une saison, tu commences à te poser des questions que moi, personnellement, je ne me posais pas avant, ou en tout cas de façon différente. Sullivan lui-même, l'auteur de la série, encore une fois, il est hyper engagé. Il a lui-même été engagé dans des assos à l'époque à Lyon. Ça parle aussi beaucoup de lui. Et c'était incroyable de l'avoir toujours sur le plateau parce qu'il avait une réponse à tout.
Et alors, comment se sont passées les scènes de sexe?
Écoute, je l'ai abordé comme... n'importe quelle autre scène. Alors c'est sûr que c'est toujours un petit peu marrant et bizarre de soudainement arriver sur un plateau, de se foutre à moitié à Walpé et puis de devoir jouer des scènes de sexualité. Mais je vais dire, justement là, tu le sais, je suis à Amsterdam en tournage sur un autre film. Et il y a 2 jours, j'ai fait une scène d'intimité ici. Sur le coup, c'est un personnage hétérosexuel. Et maintenant, en fait, maintenant, les productions font vachement plus attention aussi avec tous les mouvements qu'il y a eu entre-temps. Et par exemple, pour ce film, il y a ce qu'on appelle sur le plateau une intimacy coordinator, une coordinatrice d'intimité, un peu comme, tu vois, ce qu'on peut avoir pour tout ce qui est cascade, coordinateur de cascade. Et en fait, c'est hyper précis. Alors, il y a donc dans ce cas-là, c'était une fille qui vient... avant, en fait, c'est pendant les répètes, on a des longues discussions sur ce qui nous rend à l'aise, qui nous rend mal à l'aise. Il y a un moment où, avec l'autre actrice, par exemple, on a pris un temps, tu vois, justement, de faire un body scan, c'est-à-dire, tu vois, de toucher nos corps et de se donner le consentement. Est-ce que je peux toucher là? Est-ce que je peux toucher là? c'est pas imposé, mais petit à petit, ils se sont rendus compte que ça aide au final à avoir des meilleures scènes de sexualité et d'intimité, d'avoir une intimacy coordinator. C'est de rendre les scènes de sexe plus vraies. Tu vois, au cinéma, souvent, ça va très vite. Oui, on se fait deux bisous, tac, pénétration. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Et c'est aussi le but de représenter aussi une sexualité moins axée juste sur une pénétration. Sur les engagés, ça s'est très bien passé. Moi, j'aborde toutes les scènes de la même façon. Enfin, c'est une scène, j'arrive à faire la part des choses. Après, c'est là où intervient le rôle du réalisateur et du scénariste, parce que même dans la sexualité des personnages, l'idéal, après évidemment, quand on joue, il y a toujours une petite partie de nous qui est là, enfin il y a une partie de nous dans les personnages, mais l'idéal, c'est que c'est l'auteur qui a une vision aussi de la scène, c'est aussi la vision de la sexualité du metteur en scène, en fait, qui est représentée à l'écran au final.
Alors toi, Salim, dans Le Fil, en 2009, du cinéaste tunisien Mehdi Benatia, on observe une métaphore filée de la forme phallique, celui d'un fil qui rattache le personnage principal, Malik, à son passé. Face au moment où il doit assumer son homosexualité, Malik se défile, littéralement. Malik est pourtant un brillant architecte occidentalisé qui rencontre le jardinier de sa mère, qui est joué par toi. Comment toi, tu as vécu le fait de jouer un homme homosexuel tunisien au cinéma ?
En fait, moi, dans ce genre de personnage avec une orientation, on va dire, différente, j'ai jamais abordé la question justement de manière différente. Je me suis toujours dit que de toute façon, c'était un être humain et qu'il était ému par des sentiments, un désir, etc. En tout cas, je me suis imposé de pas penser à la question comme ça. Je me suis imposé de la penser comme quelque chose d'universel et de... comme un sentiment qui est peu importe le sexe, quoi.
Mais je pense pas en plus que ce soit propre qu'aux hommes musulmans. Mec comme Sean Penn, quand il joue Harvey Milk, juste avant, il a joué Mystic River, où il joue un gros mafieux très dur. Après, il joue Harvey Milk. Il y en a plein, même Al Pacino, il a déjà joué, puisqu'on voit que Scarface, mais il a joué dans Cruising, où il joue un flic infiltré dans le milieu gay, où lui-même se fait passer pour un gay. Il y a plein d'acteurs, en fait. Si on va chercher tous les acteurs, toutes les actrices, à un moment donné, c'est comme un sportif, il va aller chercher des choses aussi qui sont loin de lui, sinon c'est trop facile, tu joues que toi, en fait, tu joues que ce que t'es dans la vie. On fait ce métier-là aussi pour jouer ce qu'on n'est pas dans la vie.
Oui, je te pose la question aussi parce que, pour rappel, l'homosexualité est prohibée par la loi en Tunisie, puisque l'article 230 du code pénal prévoit jusqu'à 3 ans de prison pour, je cite, « sodomie » entre adultes consentants. Il s'agit donc d'une sexualité impossible, illégale ou au mieux fugitive. Et pour contourner la censure des scènes du film et pour réduire le côté graphique des scènes, le réalisateur Mehdi Benatia a décidé de projeter de manière assez épileptique des scènes d'amour entre les deux hommes, dessinées par Bilal. On comprend alors que leur sexualité ne se réduit pas à des jeux de rôle actif-passif, pris en étau entre le rôle actif du rebeu dominant et le rôle passif de l'éphèbe au torse glabre. Du coup, comment on arrive à sortir, selon toi, de ces démonstrations, de ces stéréotypes sur l'homme arabe homosexuel au cinéma ?
Non, c'est vraiment ça, c'est un procédé que le réalisateur a utilisé, Mehdi Benatia, pour suggérer justement la sexualité des personnages. En tout cas, je sais qu'il avait utilisé le dessin et que ce personnage est un dessinateur, il illustrait aussi sa vie en dessin. Et on pouvait s'imaginer que c'était lui qui redessinait... ces moments-là, et il y avait une logique. Non, c'était un choix artistique du réalisateur, pas du tout un choix de censure. C'est clairement des choix de mise en scène, c'est carrément des choix symboliques de réalisateur, c'est pas du tout, vraiment pas du tout des choix d'acteur. Le choix d'acteur, c'est comment tu vas interpréter ton personnage, et de toute façon, même ces choix-là, ils sont en discussion avec un réalisateur qui va t'orienter, te dire oui, non, voilà. Enfin, sinon, s'il n'y a pas de direction d'acteur, on fait ce qu'on veut. Et en tout cas, moi, en tant qu'acteur, dans mon métier, dans ce film-là, pour le coup, je cherchais à chaque fois à ne pas aller dans le cliché. Mais après, encore une fois, c'est en concertation avec le réalisateur. Parce que si après lui, il voulait, décrire un personnage plutôt efféminé, plutôt, viril, voilà, dans ces codes-là, on aurait pu en discuter. Il y a des films qui ont été faits là-dessus. J'ai envie de te dire, c'est pas ma responsabilité, parce que même la symbolique au niveau de l'image, c'est des choix de réalisation.
Alors toi, Jonas, tu es le premier comédien trans dans une série télévisée grand public à la télévision française. Tu joues le rôle de Dimitri dans la série Plus belle la vie. En 2018, tu as remporté l'outdoor de la personnalité LGBTQIA+ de l'année. Au passage, Jean s'était nommé en 2021 outdoor de la révélation numérique. Alors ça fait quoi d'être une resta comme ça? D'être le premier? D'être celui qui ouvre la voie aux autres?
Je pense qu'il y a une partie de moi qui est bien sûr flattée, hein. Et une autre partie, je pense, en vrai, je prends beaucoup de recul face à tout ça et je sais que c'est moi, mais je sais pas, j'ai vraiment compartimenté la chose dans ma tête et je pense que ça me permet de toujours garder une certaine forme d'humilité. Bah après, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a eu beaucoup de personnes trans à l'écran, même à la télé française. Mais après, de personnages trans interprétés par une personne trans, ça a été la première fois. Et en 2018, ce personnage est arrivé. Et je pense que d'une certaine manière, ça a prouvé aux producteurs, etc., qu'on pouvait en parler de manière safe et sans caricature. Et que le public ne sera pas outré de voir un personnage trans, quoi. Sachant que Plus belle la vie, c'est quand même France 3. France 3, la moyenne d'âge, c'est 70 ans. Me dire qu'on n'y croyait pas parce que, ouais, on se dit la transidentité, c'est pas possible, les gens ne comprendraient pas, ils en auraient peur, ils rejetteraient. Ben non, pas forcément. Quand on parle bien, avec bienveillance, et que tu donnes de belles histoires, comme celle de mon personnage, ben, le public, il est prêt, en fait. Hein.
Alors, j'aimerais aussi mentionner un documentaire de Hakim Atoui et de Baptiste Etchegaray qui s'appelle « La première marche ». Qui donne à voir d'autres imaginaires et d'autres récits collectifs des personnes LGBTQIA+ de banlieue. En l'occurrence, toi, tu as grandi dans une banlieue de Lyon, à Fézin, dans une famille d'origine algérienne. Mais la question que je voulais te poser, c'est comment tu es arrivé à naviguer dans ta transidentité sans qu'on ne puisse pointer du doigt l'identité arabe et musulmane, la banlieue, l'immigration maghrébine, comme seul coupable de l'intolérance?
Moi, j'ai pas eu de difficulté sur ça. Pas du tout. C'était plutôt moi-même face à moi-même où j'avais bien compris que, parce que ma mère est musulmane et qu'elle nous a inculqué la religion, je savais que ça allait poser problème. Et c'est pour ça que pendant longtemps, j'ai essayé de refouler ma transidentité, j'ai essayé de l'oublier. Même à un moment donné, j'ai essayé de faire ce que la société et surtout ma mère attendaient de moi. Bon, ça a duré 3 mois à peine, mais j'ai essayé. Preuve de ma bonne volonté quand même de rentrer dans les clous et d'avoir une vie normale parce que je savais que ça allait être plus simple comme ça. La transition sociale, ça me faisait peur, mais sans trop avoir peur, parce que j'ai toujours été identifié comme un garçon par mon entourage. Ça n'a pas été une grande surprise, en fait. Ça l'a été pour ma mère, parce qu'elle portait des œillères, miskina. Parce que c'est une maman et qu'elle veut pas admettre la vérité, je comprends.
Alors, tu as aussi eu un rôle dans le film A Good Man en 2020 de Marie-Cassie Manson-Char, où tu jouais Neil, un mec qui n'était pas trans, alors que Noémie Merlant, une femme cis dans la vraie vie, a joué le rôle d'un homme trans. Donc beaucoup de militants avaient perçu ça comme scandaleux, parce qu'évidemment il existe aussi des acteurs trans qui peuvent jouer ce rôle à la place de Noémie Merlant, et elles disent que ça les invisibilise. Donc premièrement la question c'est, est-ce que tu penses que seules les personnes trans peuvent jouer des personnes trans?
En fait, pour moi c'est plus complexe que oui, non, blanc, noir dans cette question-là. Parce qu'il y a une partie qui te dirait oui, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de visibilité et au-delà de visibilité, de représentativité. Mais il y a l'autre partie de moi, en fait, la partie acteur, qui va te dire, mais si je dis ça, ça va m'enfermer dans que ces rôles-là et que jamais je pourrai en sortir. Être trans, ce n'est plus être trans, ça devient mon métier. En l'occurrence, non, mon métier, c'est acteur. Je suis une personne trans, mais mon métier, c'est pas acteur trans.
Mais c'est comme quand Aïssa Maïga dit « Noir n'est pas mon métier ».
Tout pareil. J'avais jamais fait le lien et pourtant, c'est une actrice avec qui j'ai déjà travaillé et que j'adore. Mais tout à fait, c'est exactement ça. Comme si j'étais pris parce que j'étais trans et non pas parce que j'étais bon pour le rôle ou physiquement ressemblant pour le rôle. Peu importe, on est acteur, on vend une image.
Est-ce que ce n'est pas aussi une grande avancée de jouer le rôle d'un mec cis en tant qu'homme trans dans la vraie vie? Est-ce que du coup, ce serait pas le meilleur moyen de dire que les hommes trans sont des hommes, un point c'est tout?
Bah après, il y a deux façons de militer sur ce sujet-là, qui sont tout aussi valables l'une que l'autre. Hein. J'ai un ami à moi qui est trans et aussi acteur, du coup, et lui ne désire que jouer des personnages trans. C'est comme ça qu'il veut... vivre son activisme. Moi, mon activisme, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire Bah ouais, pour moi, l'avancée, elle est là. C'est on fait fi de trans, cis, on s'en fout. C'est pas ça le point. Le point, c'est de jouer un personnage. Mais dans l'état actuel des choses, on peut comprendre qu'il y a ce besoin de représentativité parce qu'il n'y en a pas eu assez encore.
Oui, et puis dans ça, il y a aussi la question du passing, c'est-à-dire du fait de passer facilement pour un homme, parce que tu as une barbe, t'es un mec poilu, t'as un torse dit de mec puisque tu as fait une mammectomie, etc. Est-ce que tu penses pas justement que d'autres corps trans, pas forcément conformes à la norme de genre masculine, devraient pouvoir émerger sur nos écrans?
Alors déjà, je pense que tu le sais pas, mais j'ai joué un rebeu dans le dernier film de Marie-Castimension Char, qui s'appelle Divertimento. Et elle m'a laissé le choix. Et elle m'a laissé le choix, en fait, de nommer mon personnage. Et vu que c'est l'histoire de Zaya et Fethouma Ziwani, qui sont algériennes, enfin d'origine algérienne, qui ont grandi dans le 9-3, en 95 et tout. Et vu les costumes que j'allais avoir, clairement, c'était ce que portait mon père dans les années 90. Du coup, c'était important pour moi d'avoir un prénom rebeu. Elle m'a dit, tu t'appelles comme tu veux, Pierre, Pedro, Roberto, Yanis, c'est ce que tu veux. Malik, elle avait choisi. Et j'ai dit, bah, je vais garder Malik. Et en fait, après Plus belle la vie, on m'a proposé, comme j'ai dit, que des personnages trans ou rebeu dealer de shit. Bah, en fait, il y a aussi une question que tu dois te poser, c'est quelle représentation tu décides de visibiliser. Et j'ai préféré dire non à ce genre d'histoire. Et oui, à l'histoire du jeune de banlieue, du 9-3, Malik, qui décide d'apprendre la flûte traversière parce que la musique, c'est sa passion, et qui décide de faire partie d'un orchestre symphonique pour aider son ami d'enfance, Zaya, interprété par Oulaya Mamra, du coup. Et j'ai bien compris pourquoi ça avait bien marché pour ma carrière par rapport au public cis. C'est parce que, comme tu l'as souligné, j'ai un très bon passing. C'est venu me percuter en parlant avec le président de Chams, en fait, une fois. T'as un cis passing de ouf. Je l'avais pas encore conscientisé avant notre discussion avec Yacine. J'avais pas compris qu'il y avait ce cis passing tellement présent que du coup, c'est pour ça qu'on veut bien parler de transidentité. Je l'ai conscientisé après, plus tard, avec l'histoire de Julia, qui s'est fait agresser lors d'une manifestation, avec Mariko, où tu conscientises ça de plus en plus et ça escalade dans ta tête. Par contre, j'avais compris que je ne correspondais pas à ce que la société cis attendait d'une personne trans. Un jour où on m'avait proposé de prêter ma voix pour un personnage de jeu vidéo et où on m'a dit que j'avais une voix trop grave pour un personnage trans.
Alors toi, Janice, dans Tu mérites un amour, tu joues Ali, le meilleur pote de Lila, où tu es extraordinaire et hilarant, mais où on ne parle pas vraiment de sa sexualité à lui. Tu as joué Nasser aussi dans Sœur de Yamina Benguigui, où je ne crois pas que ce soit évoqué non plus. Donc quelle est ton approche du jeu d'acteur? Comment tu prépares ta voix, ta gestuelle? Est-ce que toi, tu te poses la question de l'orientation sexuelle de ton personnage?
Moi, je pense pas qu'on devrait évoquer les sexualités, parce qu'une sexualité, c'est une sexualité. Ce n'est pas un sujet pour moi, la sexualité. Ça te définit pas. Pour moi, ça ne définit pas un rôle, la sexualité. Et l'orientation et tout ça. Ça peut être hétéro, gay, bi, et les sentiments se ressemblent. Il en faut bien un arabe gay du cinéma français. Moi, j'en ai pas eu. Quand j'ai grandi, j'en ai pas eu. Et il y en avait pas. Alors pourquoi pas? Mais il y en avait pas du tout. Et moi, c'est une de mes. Par contre, ça, par ego, c'est une de mes fiertés. Souvent, quand j'étais avec d'autres acteurs, dans les interviews et tout, ils disaient ah, c'est peut-être le nouveau ci, c'est le nouveau ça. Mais il n'y a pas eu de nouveau Janice. Je suis pas le nouveau de quelqu'un. Parce qu'il n'y avait pas avant.
En termes de casting, plus que la représentation des corps et des identités, souvent, je pose la question de la représentativité, c'est-à-dire pas seulement comment on représente, mais qui représente ces corps et ces identités. Alors je te pose la question que j'ai posée à Nadia Moknesh, à Lima, qui sort un film cette année qui s'appelle « L'air de la mer rend libre », dont le personnage principal est un jeune homme algérien gay. Est-ce que seuls les acteurs arabes gays peuvent jouer des personnages arabes gays?
Bah, tout dépend l'histoire, tout dépend le passé de ce personnage. Si sa culture, c'est censé être une culture maghrébine ou arabe ou quoi que ce soit, c'est bizarre que ce soit un blond aux yeux bleus caucasien qui le joue, parce que par exemple, quand tu es en Algérie ou au Maroc, il n'y a pas cette immigration-là. Donc, c'est pas logique contrairement à nous, c'est plus logique en France qu'on accède à tous les autres rôles parce qu'aujourd'hui, dans la société, on représente un peu tout ce qui se passe dans la société. Il y a pas de... Alors que quand tu vas au Maroc ou en Algérie ou en Tunisie, t'as pas forcément de médecin blond aux yeux bleus, t'as pas forcément de femme de ménage blonde aux yeux bleus qui s'appelle Karine ou Françoise ou autre. Donc, mais en même temps, pourquoi pas? Parce que c'est aussi la force du cinéma, c'est de permettre d'aller en dehors d'une certaine réalité. Après, est-ce que des hétéros devraient jouer des homos? Je pense que oui, parce que justement, c'est du cinéma et on joue et on s'approprie des rôles. Et c'est comme quand on est petit, on joue au cow-boy à l'indien. C'est pas pour ça qu'on est indien d'Amérique et ou cow-boy. Pourtant, on le fait. C'est ce qui est magique dans le jeu. Moi, je pense qu'on ne devrait pas être mis dans des cases ou quoi que ce soit. Mais après, ça doit aller dans les deux sens. On doit permettre à des gens de jouer des hommages, de jouer des hétéros ou des femmes transgenres de jouer des rôles de femmes et pas forcément parce qu'elles sont transgenres ou autres. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir de limitation dans le cinéma, mais ni dans un sens ni dans l'autre. Écoute, pour moi, la seule limite, c'est l'imagination. Si tu as de la limite dans ton imagination, c'est tant pis pour toi. Mais si tu n'en as pas, alors bien sûr, tu peux jouer n'importe quoi. Et au final, qu'est-ce que c'est? Une chair, c'est de la chair. Et un corps, c'est un corps. Et une âme, c'est une âme. Et peu importe. Donc, on est tous faits pareil. On peut tous se rattacher à des expériences qu'on a vécues ou non. Peu importe si on est homo, hétéro. On a tous subi le rejet. Peu importe si tu es homo, hétéro. C'est juste à toi d'aller le chercher en toi et de le transformer et de l'adapter à ce que tu devras jouer.
Toi, Mehdi.
Évidemment, vivre l'homosexualité, ça a des impacts sur sa propre vie. Comment tu vas vivre ta vie, le fait d'être homosexuel ou pas, ça va changer en fait ce que tu vas rencontrer comme difficulté ou pas dans la vie. Maintenant, par exemple, Hicham, pour moi, je me suis pas dit je vais jouer un homosexuel, c'est-à-dire que je vais jouer un personnage avec des complexités, avec des peurs, des doutes qui sont là, mais en fait, pour moi, en fait, son homosexualité ne le définit pas. Il n'est pas défini par son homosexualité. Son homosexualité fait partie de sa personnalité. Pour ce qui me regarde, je suis plus gêné quand il y a une transformation. Par exemple, quelqu'un qui doit physique, qui doit jouer un personnage transgenre, où il y a une forme de transformation, et puis ah regarde, il s'est transformé pour jouer un personnage transgenre. Quelque part, en tout cas dans ma vision, j'ai l'impression que oui, dans le monde idéal, oui, il faudrait que les personnages gays soient joués par des hommes gays, mais après, tu vois, pour moi, des hommes gays devraient pouvoir jouer des personnages hétéros aussi. Et après, est-ce que il n'y a pas le danger inverse que les producteurs, ce qui d'ailleurs est le cas, moi je le sais parce que tu vois, Adrien de la Vega, c'est resté un ami proche que j'adore, et je sais que parfois, surtout au début, maintenant il arrive à s'en sortir, mais tu vois, le fait d'être ouvertement transgenre, quand un producteur le reçoit pour un casting et qu'il le sait, il y a des producteurs qui vont dire ah ouais non mais lui il est transgenre, il peut pas jouer un mec. Voilà, un mec cis, quoi, tu vois, il peut pas jouer un mec cisgenre. Évidemment, les rôles de personnes arabes ou, voilà, d'arabes ou même d'asiatiques, etc., il y a beaucoup moins de rôles et les rôles sont beaucoup plus stéréotypés. Même quand c'est des projets qui sont un peu plus ouverts, on va dire, les rôles restent un peu stéréotypés. La France, sincèrement, par rapport à d'autres pays, elle est quand même avancée, tu vois, par rapport à l'Italie, par exemple, il y a quand même des choses où on n'est pas au même point. Maintenant, les rôles restent stéréotypés. J'ai fait un projet où il y avait une actrice qui jouait italienne, qui jouait un personnage maghrébin. La raison qu'on a donnée, c'est qu'ils n'ont pas trouvé d'actrice assez bien en Italie pour faire ce rôle. Ce qui en fait est possible dans le sens où il y a peu de filles marocaines, tunisiennes, algériennes qui se permettent d'être actrices parce que la représentation est tellement faible qu'en fait, elles se disent même pas « je peux le faire ». En revanche, bon, là, j'avais dit à la production, je leur avais dit « oui, vous aurez dû chercher plus ». C'est aussi donner l'opportunité à des personnes qui n'en ont pas. C'est la même chose avec les personnages transgenres. C'est-à-dire qu'il y a tellement de personnes transgenres qui voudraient être acteurs et au moment où il y a un rôle transgenre, déjà, on leur donne même pas le rôle qui est leur propre parcours de vie, et si surtout si tu fais un film sur ce sujet-là, va voir les personnes concernées.
Toi, Janice, comment tu fais pour ne pas rester enfermée dans ce type de rôle?
Déjà, ça me dérange pas de rester enfermée parce que l'enfermement, dans tout enfermement, tu peux trouver une certaine liberté et c'est à toi, c'est encore une forme d'imagination et de tout ça. Le même rôle raconté par une personne différente, eh ben, il va être forcément différent. Si les deux personnes sont fortes et qu'elles ont leur propre ADN, leur propre code et tout, la même histoire va être complètement différente. Donc, c'est juste à toi de t'embarquer, de comprendre l'ADN du metteur en scène avec qui tu bosses. Donc, j'ai pas ce problème d'avoir peur d'être mis en cage ou jouer les mêmes rôles et tout, parce que ça n'existe pas, jouer les mêmes rôles. Et moi qui vais interpréter un texte lundi avec ce que j'aurais vécu le dimanche, ça va être différent de ce que je serai mardi. Et c'est un business, il faut être, logique. Et je ne comprends pas les gens qui disent j'ai été utilisé, j'ai été fétichisé, j'ai été ci, j'ai été ça. Mais qu'est-ce que tu crois à partir du moment où tu viens, où tu donnes ton image, où tu signes un contrat, où tu prends de l'argent, tu pensais quoi? C'est totalement logique et c'est notre métier. C'est un métier d'image. Donc si tu crains ça, alors faut faire un autre métier. Bah, j'aime ça parce que c'est une forme d'obsession et moi j'aime que dans l'art il y ait une obsession et une sorte de perversion, sinon je m'ennuie. Parce que quand t'es pas fétichisé, au final c'est quoi ça? Je trouve souvent que ça fait des rôles ennuyeux. Et les metteurs en scène qui n'ont pas d'obsession, qui sont pas fétichistes, qui sont pas tout ça, bah, au final ils font quoi, Joséphine Ange Gardien? Et encore, il y a, quand je rencontre un metteur en scène qui n'a pas d'obsession, qui n'a pas de fêlure, qui n'a pas de perversion et tout, j'en viens vite à m'ennuyer. Si tu commences à te soucier ce qu'ils vont retenir, ce qu'ils vont pas retenir, ce qu'ils vont tout ça, tu t'en sors plus. Et une carrière, c'est rien dans une vie. Et l'autre fois, j'ai été mort de rire parce que j'étais avec la fille d'une amie, une grande actrice qui est très, 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 très connue, je dirais pas. Et sa fille a 20 ans. Et à un moment, on parle de Isabelle Adjani et on disait à quel point on trouvait sa carrière incroyable et magnifique. Et la fille de 20 ans a dit, c'est qui Isabelle Adjani? Du coup, à partir de là, tu comprends tout. Pourquoi se prendre la tête à qu'est-ce que les gens vont retenir? Qu'est-ce que les gens vont pas retenir? Faut pas commencer à rentrer dans qu'est-ce que les gens vont retenir parce que c'est des mauvais questionnements. On n'est pas là pour faire des films en se disant, celui-là, les gens vont me retenir.
Et du coup, toi, Gianni, ça te fait quoi de jouer des rôles comme celui de Thomas, d'Alban ou de Vincent dans La Cour, le téléfilm de Afsia Herzi? Que des noms qui ne sont pas arabes, finalement.
Alors déjà, je n'y pense plus. De deux, tu peux t'appeler Mohamed et ce n'est pas pour ça que tu es cantonné. Ce qui compte, c'est ce que l'histoire raconte. Tu peux être Mohamed et avocat, Mohamed et médecin, Mohamed et prostituée et tout. Si toi, tu as un problème avec ça, eh ben, c'est toi qui vas intellectualiser. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Tu peux m'appeler Mahmoud dans tous mes films. Je m'en fous. Ce qui va compter, c'est juste ce qu'on va raconter. Non, la première fois que ça m'est arrivé, j'étais comme, ah, je me rappelle, j'avais appelé Axel. Je dis, ah, trop bien, c'est bon. Là, on m'a appelé, je crois, Thomas et tout et tout. Et après, avec le temps, j'ai réalisé, je dis, mais t'es vraiment une grosse merde. C'est-à-dire, ils t'ont un petit peu mis une graine dans la tête en te faisant penser que tu passerais un cap si tu t'appelais autre chose que par un prénom maghrébin ou arabe ou autre. Et après, entre-temps, les choses ont changé dans ma tête et j'ai plus ce genre de questions qui se posent.
Toi, Mehdi ?
Je suis toujours gêné quand des Européens jouent des rôles de racisés. En ce moment, je suis, comme je suis né en Italie, mes parents sont marocains, mais j'ai la nationalité italienne et j'ai fait jusqu'à mon adolescence en Italie. Et il se trouve que là, pour la première fois, je suis en train de jouer un rôle principal où mon personnage s'appelle Francesco, c'est un Italien, dans les années 60. Et c'est vrai que quand le réalisateur m'a proposé le rôle, j'ai eu un moment, déjà, moi-même, un moment où je me suis senti pas légitime, en fait, pendant longtemps. J'ai eu beaucoup de doutes et j'ai toujours eu peur qu'à un moment donné, le réalisateur me dise « Ouais, Mehdi, en fait, j'ai changé d'avis, je vais prendre un vrai Italien. » Un vrai Italien, c'est quoi? C'est ça, la question. Et en tout cas, je pense que personnellement, vu que j'ai beaucoup souffert du racisme en Italie, je me suis jamais senti vrai italien, parce qu'on me l'a rappelé très souvent. En Italie, ça arrivait très souvent que même des amis très proches, s'il y avait une embrouille, ils me disent, alors que j'étais né là-bas, et puis moi je me sentais italien en tant qu'enfant, ils me disaient, ouais, vas-y, rentre dans ton pays, sale marocain, tu vois. Donc c'était très régulier. Donc en fait, on m'a toujours rappelé ma différence en fait. Et je sais pas si je me sens italien maintenant par la nationalité. Tu vas rigoler, mais sur le plateau du coup, il y a plein de gens. Du coup, c'est en Hollande. Il y a plein de gens qui, au moment où je leur ai dit, mais en fait, tu sais, j'ai des origines marocaines. Ils me disent ah bon? Et en fait, non, ils sont vraiment surpris parce qu'ils me disent ah bon, mais moi je pensais que t'étais vraiment italien.
Toi, Salim, pareil, t'as une filmographie incroyable, mais il y a très très peu de films où tu as eu un prénom de personnage qui n'était pas arabe. Est-ce que ça t'a fait quelque chose que pour la première fois dans un long métrage, Make to My Love d'Abdelatif Kechiche, on t'appelle Tony, donc pas un prénom arabe?
Ouais, ça m'a fait plaisir parce qu'il y avait plein de références un peu déjà cinématographiques. Ouais, le rapport Al Pacino. L'acteur italien, Tony Micheli aussi. Non, mais c'est pas que Tony Montana, c'est pas Tony, il y a un côté, ouais, il y a un côté très italien, très méditerranéen, mais aussi on sait pas si c'est son vrai nom, si c'est un nom qu'on lui a donné. C'était pas du tout la question, c'est-à-dire que ce qui était bien, c'est que on s'en fout qu'il soit d'origine maghrébine, en fait. C'est jamais un sujet. En tout cas, aussi par fierté, ouais, interpréter des hommes arabes, moi je renie pas du tout, au contraire. Je viens de faire un film algérien. Là, je suis en Tunisie en train de faire une série internationale, mais en Tunisie. J'aime beaucoup ce qu'ont apporté le regard des cinéastes arabes, maghrébins sur le monde. Hein.
Je voulais parler aussi notamment du female gaze, qui peut aussi redéfinir le rapport qu'on a aux masculinités arabes alternatives. On a vu notamment la réalisatrice marocaine Mariam Touzani, qui a réalisé Le Bleu du Caftan, dans lequel Ayoub Missoui ravive le désir homosexuel de Saleh Bakri, qui est marié à une femme jouée par la merveilleuse Lumna Azabal. Est-ce que le fait d'être filmé et dirigé par Afsia Herzi t'a mis plus à l'aise, ou t'a révélé, ou en tout cas ne t'a pas limité en tant qu'acteur?
Non, je pense qu'elle fait partie des rares personnes qui ont pas peur de leur force et qui ont pas peur de la force des autres. Et du coup, ça te donne une liberté. Parfois, tu tombes sur des gens qui ont tellement peur d'eux-mêmes qui du coup te brime. Alors tu finis par faire des projets un peu médiocres et tout. Et Dieu merci, parfois tu tombes sur des gens comme Afsia Herzi, comme dernièrement comme Brian Marciano, comme tout ça, qui n'ont pas peur, qui ont une faim, qui ont un désir ultime de créer sur le moment où ils créent. Et du coup, ça fait des choses spéciales, des belles choses et tout. Quand t'es bien dirigé, quand t'es avec une personne qui sait ce qu'elle veut et qui te porte, eh ben ça se fait naturellement. Ça change comparé à d'autres metteurs en scène, d'autres réalisateurs et tout. Et surtout, elle a beaucoup, 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 beaucoup le souci du détail. Et chaque personnage, même celui qui arrive juste pour ouvrir une porte et dire un mot, elle y prête beaucoup d'attention. Donc, c'est ce qui fait la différence avec d'autres réalisateurs. Elle est très, très, très dans le détail. Et ça ne se voit pas parce qu'on a l'impression qu'il y a énormément de lâcher prise, et c'est là où c'est pour moi, où c'est sa force, c'est parce que tout est très contrôlé, mais quand tu regardes, t'as l'impression que rien n'est contrôlé. Et moi, c'est ce que j'adore aussi avec les metteurs en scène, en tant qu'interprète, j'adore qu'on m'impose des choses. Si c'est ma vision de moi par moi, ça m'intéresse pas, je me vois chaque matin devant la glace, et c'est ce que j'adore avec Afsia, c'est parce que elle te fait faire des choses qu'elle veut.
Et toi, Salim, je voulais te poser la question aussi. J'avais invité Raja Marie dans Jeans et je voulais savoir ton avis sur le tournage de Corps étranger en 2016. Tu as très souvent été dirigé par des réalisateurs hommes. Même question que Janice, est-ce que le regard d'une femme réalisatrice sur le désir, le triangle amoureux, les corps, a pu changer quelque chose pour toi en tant qu'acteur dans ta façon de jouer?
Bah du coup, bah, le regard féminin sur un homme et de sa sexualité, qu'elle soit d'une orientation ou de l'autre, en fait, déjà, elle est différente. C'est-à-dire que le regard d'un homme sur l'orientation hétérosexuelle d'un homme, elle est différente que le regard d'une femme sur l'orientation hétérosexuelle. Et pareil pour l'homosexualité, ça veut dire que elles ont un regard différent des hommes. Comme expérience dans un genre de registre aussi où ça touchait aussi à la sensualité et un peu au désir. C'est un peu cliché de dire en douceur, mais peut-être avec ouais, quelque chose de plus délicat, on va dire. Plus suggéré, un peu plus pudique, entre guillemets. Et puis après, ça dépend du caractère. Raja, elle a un caractère assez, assez pudique aussi. Donc ça a son image aussi. C'était un peu dans la retenue quand même. Donc oui, ça, à travers ce regard-là et à travers la façon, parce que la caméra, c'est le regard du réalisateur ou de la réalisatrice, et qui change aussi entre les femmes, d'une femme à l'autre. il n'est pas le même aussi, parce qu'il y a une grosse erreur aussi, c'est de mettre toutes les femmes dans le même sac, tous les hommes dans le même sac. Des fois, un homme et une femme peuvent avoir un regard hyper proche, plus proche que deux femmes ou plus proche que deux hommes.
Bon, alors toi, Salim, tu incarnes quand même un corps très désirable dans le fil, mais aussi dans le clan de Gaël Morel. Il y a aussi un regard masculin hétérosexuel qui est porté sur toi, une sorte de straight male gaze, qui provient des hommes arabes eux-mêmes. Tu es notamment passé devant la caméra d'Abdelatif Kechiche, donc. Alors même si ton personnage était hétérosexuel, le regard du réalisateur était essentiellement focalisé sur sa corporéité, lubrique et exotique. Notamment la scène mythique du début avec Ophélia Beau, qui a émoustillé bien des gens, je peux te le dire. En gros, beaucoup de tes rôles sont ceux d'un mec sexy et convoité par des personnages autant masculins que féminins d'ailleurs. Est-ce que c'est toi qui as voulu devenir un sexe symbole ?
Je pense pas que ça a été une volonté, c'est des choses dont je suis même pas responsable. En réalité, c'est dans ton enveloppe physique, enfin c'est pas toi qui est responsable de ça. Moi, à la base, le désir, il était plutôt d'exprimer des idées, de même à la rigueur de réaliser des films en fait. Hein, et le métier d'acteur, il est venu comme ça un peu par la force des choses. Après une rencontre hasardeuse où voilà, on avait parlé de cinéma avec Gaël Morel et puis il m'avait proposé mon premier rôle. Mais en réalité, à la base, moi, j'écrivais des histoires et je voulais plutôt les réaliser, peut-être jouer dedans. Mais je sais pas si moi-même, je me serais dirigé vers un côté comme ça, très sexe symbole, comme tu dis, et pas que, hein, parce qu'il y a eu plein d'autres films aussi où je joue des choses différentes, mais en tout cas, dans ces personnages-là, où c'était quand même un attrait très important, je pense que ça a dû venir, ouais, du côté de l'âge que j'avais, côté sportif aussi, un peu, que tu peux avoir dans la boxe, qui est un métier aussi où quand même on se montre sur un ring, sous la lumière, voilà, où j'avais pas de problème avec mon corps non plus, tu vois, c'est-à-dire que j'étais pas non plus dans un truc d'exhibitionnisme, parce que j'avais quand même une certaine pudeur qui était aussi due à ma culture et à mes origines, mais j'avais pas de problème avec ça, je veux dire, j'avais pas honte de mon corps, et à une époque où il y a une espèce de mouvement de liberté aussi qui se créait, voilà, où c'est des gens qui voulaient qu'on parle de ces corps-là d'une manière très libre et assumée, quoi. En tout cas, dans mon métier, j'ai tout le temps essayé d'être juste. Moi, ce que je trouve beau aussi à l'écran, c'est quand les choses, elles nous échappent et qu'on ne peut même pas mettre, et ça devient même plus joli. C'est-à-dire que quand quelqu'un, il a conscience de sa beauté, de son sex appeal, de son attractivité, de son magnétisme, ça le rend, ou ça la rend moins beau, moins belle. Et que quand il y a quelque chose qui nous échappe, moi, c'est la première fois, c'était peut-être dans Les Amants criminels de François Ozon, où il y avait une scène, voilà, où qui se passait sous la douche, où derrière, après, je me fais assassiner par un couple de jeunes lycéens. Ça m'avait complètement échappé. J'avais pas du tout imaginé la scène en me disant, voilà, ça va devenir quelque chose d'érotique, etc. Et je l'avais faite normalement, moi, dans ma tête. Et c'est plutôt la manière de filmer de François Ozon et de ce que ça a donné après dans l'imaginaire des gens qui a fait que c'est devenu érotique et un peu iconique. Mais en fait, à la base, pour moi, c'était juste, voilà, je prends ma douche après l'entraînement de boxe, en fait. J'étais jeune, j'avais même pas 18 ans. J'avais honte de prendre ma douche devant une équipe de cinéma. Et donc, en fait, du coup, c'était justement cette pudeur, le fait de vouloir montrer sans montrer, qui rend la chose... Parce qu'en fait, dans tout ça, en fait, ce qui est beau aussi dans la culture orientale, c'est le fait de pas tout montrer et tout. Et je trouve ça plutôt excitant en fin de compte. Parce que quand on montre tout, qu'on on peut aller regarder du porno, à un moment donné, ça fait plus rien, quoi. Je veux dire, il y a même plus de sensualité parce que tout est là, tout est donné. Et en fait, la sensualité, elle vient du fait qu'il y a quand même une retenue et qu'il y a quelque chose qui se donne pas tout de suite. J'ai jamais été dans un quelque chose de d'exhibitionniste, mais peut-être, ouais, quand même de séducteur quand même. J'ai toujours eu, ouais, ce côté un peu. De toute façon, pour être acteur, faut quand même avoir un minimum d'envie de séduire, quoi.
Oui, c'est marrant parce que il y a vraiment, je trouve, un white gaze. Il y a les artistes gays blancs qui investissent aussi l'objet érotique du lascar, du jeune arabe de banlieue. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Christophe Honoré en 2010 avec Homme au bain, avec la star du porno gay François Saga. En 2022, François Ozon racontait l'histoire de Peter von Kant, tombé fou amoureux de sa muse Amir, jouée par Khalil Ben Rarbia. Il y a quand même ce regard blanc du réalisateur.
Moi, la première chose que je demande à un réalisateur quand il fait un film sur des migrants, etc., je lui dis pourquoi. Parce que quand même, c'est 95% du temps, c'est des scénarios écrits par des blancs. Même là, j'ai refusé un rôle, c'était un rôle principal, parce que c'était cliché de A à Z. Et je pense que l'auteur n'arrivait pas à voir que c'était cliché de A à Z dans un personnage qui se radicalise. Donc là, à ce moment-là, je me suis dit, OK, ça, c'est pas un projet que j'ai envie de faire. Un pouvoir qu'on a aussi les comédiens, il faut pas le négliger, c'est que quand on représente un personnage, on a aussi un avis, un point de vue à donner, et puis les personnages peuvent changer. En tout cas, c'est là encore l'intérêt du cinéma et d'une vision d'auteur, c'est que l'auteur, en général, quand il est bon, il est ouvert au dialogue. Je pense que le moyen de s'affranchir, c'est que les personnes concernées, petit à petit c'est le cas, hein, en France c'est le cas plus que dans d'autres pays, puissent eux-mêmes sentir la légitimité d'écrire, de créer et de représenter leur vision des choses à l'écran. Malheureusement, c'est très difficile, je pense, de dire à François Ozon, vois la sexualité d'une différente façon que ce que tu la vois. C'est sa perspective, c'est sa vision. Élargir en tout cas les visions, c'est celle de partager sa propre vision, donc de décrire soi-même et de réaliser ou de faire des pièces de théâtre. Donc évidemment, une personne blanche, même si elle peut se rapprocher, même si elle peut se renseigner autant qu'elle veut, elle verra toujours les choses de son propre point de vue. Et c'est ça aussi personnellement que je trouve intéressant au cinéma, dans l'audiovisuel, c'est de pouvoir découvrir d'autres perspectives sur la vie. En fait, le moyen, c'est qu'il y ait plus de personnes qui prennent en fait la caméra et qui décident de se représenter eux-mêmes.
Pour finir, Salim, tu as joué dans le film 1500 impurs, qui est plutôt engagé sur les questions de l'histoire, de la colonisation, sur la question de la guerre d'Algérie. Dans ton court-métrage que tu as réalisé, Nos Gènes, tu voulais interroger l'identité de l'origine arabe et de la religion musulmane, avec un acteur principal qui est aussi un miroir de ta propre identité, hein, finalement, et qui interroge ses élèves sur l'identité débattue dans les médias. Donc, quel message tu as envie de faire passer à tous les jeunes maghrébins musulmans en France qui ont envie de se lancer dans l'actorat ?
C'est pas facile, déjà. Après, faut y croire. Faut croire en ses rêves, faut se battre. C'est assez bateau de dire ça, mais en tout cas, faut se donner les moyens de ce qu'on veut. Faut être prêt à prendre des risques, à avoir une vie qui est pas forcément rangée et prévisible, etc. Mais ça a aussi des inconvénients, c'est-à-dire que voilà, on est souvent en partie, on est souvent, en tout cas quand ça marche, parce que quoi qu'il arrive, c'est jamais facile en réalité. C'est-à-dire quand ça marche pas, c'est pas facile parce que on doute et on se dit ça marche pas, et quand ça marche, on n'est pas disponible pour les siens, pour sa vie privée, etc. Donc il y a quoi qu'il arrive, il y a des défauts. Après, il y a aussi des choses superbes, c'est que on explore plein de choses de l'âme humaine, des personnages. Il y a une liberté immense qui se dégage aussi de ces métiers-là, une espèce d'humanité aussi, de pas être dans le jugement de soi-même, parce que je vois bien beaucoup maintenant les gens, en fait, les jeunes et tout, ils sont dans un jugement, une autocensure. Maintenant, surtout avec les réseaux et tout, on sait qu'on va être jugé sur chaque chose, on va te sortir des dossiers de ce que t'as fait, de ce que t'as pas fait. On peut en parler aussi, il y a plein de positions politiques. Dire que, par exemple, montrer des musulmans positifs aussi dans des films, maintenant, c'est quasiment une position politique. Maintenant, si tu montres pas le côté négatif, terroriste et tout ça, et que tu vas pas dans le sens d'une certaine pensée où on doit montrer les hommes arabes que d'une manière négative, macho et tout, je veux dire, dans les deux cas, quoi. En tout cas, moi, dans les deux cas, j'ai envie de prôner la liberté. C'est-à-dire, si des jeunes qui ont envie de jouer, et après, c'est des choix de personnages. En fait, c'est si c'est un bon personnage, si l'histoire, elle est bien racontée, si le film, il est beau, si on doit jouer un personnage d'homosexuel, mais qui est magnifique, faut le faire. Si on doit jouer un personnage d'homme arabe musulman pratiquant magnifique, faut le faire. Je veux dire, c'est les personnages, en fait, soit ils sont beaux, soit ils sont mal écrits. Tout ça, c'est des choix de rôle, quoi.
Nous allons conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Je parlais de ce sujet à un camarade de classe blanc à la Sorbonne, lors de mon master cinéma là-bas, et il me disait bah, « En vrai, les mecs, ils jouent ces rôles d'homosexuels pour qu'on parle d'eux après dans la presse, hein. Mais je mets ma main à couper qu'ils ne font pas trop les malins après avec leurs potes et leur famille arabe. » Alors chacun d'entre vous, qu'est-ce que vous lui auriez répondu à ma place ?
Avec mon père, ça se passe très bien. Alors que pendant 4 ans, il me cherchait dans les rues de Lyon pour me casser ma bouche, me ramener à la maison et que je devienne avocate. Que ma mère a refusé de me parler pendant 12 ans. Pour elle, j'étais mort. Jonas avait tué sa fille. Et que j'ai fêté Noël avec ma mère et mon père et mes frères le Noël dernier. Et que ma mère et mon père sont partis au cinéma découvrir Divertimento fin janvier. Et même si ma mère me méjore encore, parce que ça fait quand même que 6 mois qu'on se reparle, elle m'a dit « Putain, à la fin, t'es arrivé dans la dernière scène en mode beau gosse. » Et que non, je fais le malin dans ma vie d'acteur et je fais le malin devant mes parents. J'ai osé me mettre en opposition avec ce qu'on attendait de moi, justement, en tant que personne née dans une famille maghrébine, personne née considérée comme femme. Il n'y a pas « je fais le malin ». Ma vie, je l'assume de bout en bout, que ce soit dans mon métier d'acteur ou dans ma vie personnelle. Je sais qui je suis et au contraire, je n'ai aucune peur de l'être. Et aujourd'hui, c'est même ma fierté.
Je comprends d'où ça peut venir, cette remarque, parce que justement, je connais beaucoup d'acteurs aussi arabes qui ont peur de faire ces rôles-là parce qu'ils ont la pression familiale et ils ont très peur de comment leur famille peut les voir. Alors moi, j'ai de la chance de ne pas m'être posé cette question au moment où j'ai accepté le rôle. Et puis moi, personnellement, je l'ai dit à mes parents que je jouais un rôle de personnage homosexuel. Ils ont toujours été très ouverts, ils m'ont toujours soutenu. Mais ça, c'est vrai aussi pour des personnes blanches. Si tu viens d'une famille d'extrême droite et que tu dis, bah, Sullivan lui-même, l'auteur de la série, il a été renié par sa famille à cause aussi de son homosexualité. Encore une fois, c'est les complexités des familles. Donc, il y a des gens pour qui ça va être vrai, pour d'autres, ça ne va pas l'être.
Bah, écoute, je ne connais pas toutes les familles, mais il y a 1000 familles arabes différentes. Bah, ils font pas les malins avec la famille, ça dépend qui de la famille. Hein. Si c'est des gens qui ont l'esprit obtus ou c'est les gens qui ont l'esprit ouvert, c'est comme la famille, c'est comme la société. T'as des gens avec qui tu peux avoir des arguments et une discussion, et t'en as d'autres qui ont pas envie de discuter. C'est comme la religion, t'as des gens qui ont un point de vue et, voilà, fermé sur la religion, et t'en as d'autres avec qui tu peux discuter du fond et tu peux t'enrichir. Après, c'est sûr que il y a un poids de la tradition peut-être, mais comme il y a dans toutes les religions, dans la religion juive, orthodoxe, dans la religion catholique, même je sais pas, même si ouais, il y a des bouddhistes pour qui l'homosexualité. Franchement, moi je trouve que ça fait partie aussi d'une stigmatisation en fait. À chaque fois de dire, bah vous les musulmans, vous avez des problèmes. C'est comme si on déviait le problème des autres pour le mettre que sur nous. Quand il y a l'association Le Refuge là que je connais, la plupart c'est des blancs, athées, catholiques, enfin, je veux dire, s'il n'y a pas de question, c'est pas que des musulmans, ils en font partie comme tout le monde, mais c'est pas que en fait.
Bah moi je répondrais, va dans la manif pour tous et j'ai pas vu beaucoup d'arabes. Tu sais, faut toujours se dire que les gens, ils font ce qu'ils peuvent. Et si dans sa famille et tout ça, il peut pas s'exprimer parce qu'il a pas la force en lui ou il a pas l'envie ou il a pas le truc. C'est pas grave, on devrait pas être là pour jeter la pierre ou pour juger ou pour tout ça. Ce qui compte, c'est est-ce que l'œuvre est belle, oui ou non. Est-ce que l'œuvre t'a touché, oui ou non. Après, ce que la personne fait chez lui et pourquoi elle l'a fait et pourquoi les raisons et tout, on s'en fout. On est là pour transmettre un message, pour interpréter, pour essayer de toucher des gens, pour essayer de les sensibiliser à une cause ou une autre. Et après, on s'en fout. Donc demain, si Abdelkader a fait un film où il se fait enculer et que chez lui, après, quand il rentre chez lui, il n'ose pas le dire à ses parents, à sa femme, à ses enfants et tout, bah c'est pas grave, il a le droit. Où est le mal ?
Merci à tous d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, c'était trop cool.
Merci à toi.
Bah, merci à toi.
Il faut aussi, je pense, mentionner Rami Youssef, qui dans la saison 3 de Rami, sa série éponyme, réinvente brillamment la figure de l'homosexuel en proie à ses songes, qui a aussi une homophobie intériorisée et qui est en proie aussi à une culture répressive de son désir qui nous rend infiniment attachés à cet oncle, qui s'appelle donc dans la série Nassim. Il est victime d'un système qui est plus fort que lui, qui le ronge de l'intérieur. Pourtant, on n'avait pas entendu parler de sa sexualité avant la saison 1 et 2, mais pendant la saison 3, c'est devenu une sous-intrigue, comme une backstory bien amenée. En plus, il est quand même rare, voire impossible, de voir des personnages homosexuels, arabes et quinquagénaires. Comme si, quelque part, la jeunesse allait de pair avec l'homosexualité d'hommes arabes, ce qui montre bien le caractère fétichisant de ces beaux et faibles qu'on va chercher dans les confins de la Méditerranée. Merci d'avoir écouté cet épisode inédit et hors série de Jeans Podcast. Que vous soyez sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer ou autre, n'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires. Mettez 5 étoiles sur toutes les plateformes. Abonnez-vous au compte @jeans-podcast sur Instagram. Poursuivez votre écoute de Jeans avec tous les épisodes disponibles. Partagez autour de vous, car il y a sûrement quelqu'un quelque part qui a besoin de ce message d'amour et de paix. À bientôt dans Jeans Podcast.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.